Alléluia. Êtes-vous sauvés? Et devenir. Alléluia.
Merci mon frère, merci. Le Seigneur est au milieu de nous, c'est certain. Et il est au milieu de nous spécialement ce soir pour vous encourager. J'ai cette parole du Seigneur pour vous. Je suis là pour vous encourager. Et puis, ce verset qui est à l'entrée de l'église me sert d'introduction pour mon témoignage de ce soir, ou mes témoignages. Quand on tourne vers lui, non, c'est pas ça, c'est 34:7. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Le Seigneur est vivant. Il est la résurrection et la vie. Et si nous l'oublions, nous, lui ne nous oublie pas. Il entend chacun de nos cris et il entend même chacune de nos respirations. Ça va très loin. Quand on n'a même plus la force de crier, il entend notre respiration parce que c'est lui qui nous l'a donnée. Il est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, et je voudrais témoigner à la gloire de celui qui est la résurrection et la vie et qui entend même notre respiration. Nos cris, c'est sûr, ça facilement, mais même nos soupirs, même quand nous ne pouvons plus crier, que nous n'avons plus la force de crier. Et nous nous trouvions au Burkina Faso, en Afrique, il n'y a pas très très longtemps. Et nous faisions un séminaire pour les pasteurs et leurs épouses. Et là, le Seigneur a vraiment fait un miracle extraordinaire qui nous montre cela, qu'il entend même nos soupirs. Nous faisions la réunion avec les pasteurs, il y avait à peu près 500 pasteurs. Et Samuel enseignait la parole de Dieu et moi je viens toujours avec le côté prophétique et parole de connaissance. Et le Seigneur confirme par des guérisons, des miracles et des paroles aussi précises pour les gens, pour les pasteurs aussi ou pour les personnes concernées dans l'auditoire. Et là, ce jour-là, j'ai dit de la part du Seigneur, il y a ici un pasteur qui a laissé sa femme très malade à la maison. Et c'était pas seulement très malade qu'il l'avait laissée. C'était mourante, agonisante sur son lit de mort depuis 10 jours, renvoyée par l'hôpital de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Renvoyée par l'hôpital de Ouaga, les médecins disant, pas la peine d'ouvrir, ses intestins sont tout pourris, laissez-la aller mourir tranquille à la maison. Et cette femme, ça faisait 10 jours qu'elle attendait la mort. Donc, cancer au dernier stade. Et même, elle était dans le délire depuis 10 jours, sans pouvoir manger, sans rien du tout. Et son mari était au séminaire. Et quand j'ai dit, le Seigneur montre qu'il y a un pasteur qui a laissé sa femme très malade à la maison, et je suis en train de la guérir, à l'instant même dans sa maison, à des kilomètres de là, elle était dans le délire, dans l'agonie de la mort. Elle a entendu la voix du Seigneur à cet instant même lui dire, j'ai une de mes servantes qui est en train de prier pour toi, je vais te guérir. Et la puissance de Dieu, la puissance de Jésus est venue sur elle. Comme un phare lumineux, puissant, qui est venu sur elle et qui l'a traversé de part en part, de la tête aux pieds. Elle était presque paralysée, ne pouvait plus marcher de toute façon, presque aveugle, donc vraiment au seuil de la mort, attendant la mort, elle avait même vu des anges de la mort venir la chercher et tout ça, et la puissance de Dieu l'a traversée, instantanément relevée, guérie, fortifiée, elle qui ne pouvait pas marcher, elle a sauté de son lit, elle a couru dehors, elle a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, femme de pasteur. Alléluia! Je suis la résurrection et la vie. Le Seigneur, n'oublions pas, il a entendu les cris, mais plus que ça, même les soupirs. N'oublions pas cela. 3 jours après, elle venait à la réunion de dames que je tenais là-bas pour les femmes de serviteurs de Dieu, les épouses, à peu près 1000 personnes, et puis 1000 femmes. Et puis, j'avais donné mon message, des paroles de connaissance, des dames venaient témoigner de leur guérison, de l'attouchement du Seigneur. Et je vois au premier rang une dame noire, africaine, donc, mais qui brillait de la gloire de Dieu. Elle était lumineuse. J'ai dit, vous, madame, sans savoir rien, vous, madame, vous êtes en train de vivre quelque chose, venez partager avec nous, s'il vous plaît, venez nous dire ce qui se passe. Alors la dame, elle vient, c'était notre miraculée. Elle a dit, c'est moi. 3 jours en arrière, vous avez dit, c'est moi, la femme du pasteur, c'est moi. Puis elle a montré un dessin, elle a montré toute son histoire, comment elle a vu les anges de la mort venir, elle baignait dans du sang et tout ça. Elle a fait un dessin pour montrer ce qu'elle avait vécu. Et là, depuis, elle est parfaitement guérie. Une année après, 2 ans après, elle est toujours guérie parfaitement. Et les gens qui la voient dans la rue aujourd'hui, ils disent, c'est pas elle. Elle est morte, cette femme, c'est son fantôme, c'est son... Ils n'y croient pas. Tellement c'est invraisemblable. Et son frère, qui rentrait, qui est le président des assemblées de Dieu, de toutes les assemblées de Dieu du Burkina Faso, est rentré des États-Unis. Il revenait pour l'enterrement plutôt que... Et il a appris ce qui s'est passé. Il nous a fait venir dans son bureau. Et il nous a invités. C'était sa propre sœur, donc. Sa sœur dans la chair aussi, sa vraie sœur. Là, qui a été guérie par le Seigneur. Suite à ça, il nous a invités au séminaire national. Il voulait que tous les pasteurs nous entendent. Il voulait qu'on apporte la bénédiction à tous les pasteurs, 2150 pasteurs. C'est un mouvement très fort au Burkina Faso, le plus fort d'Afrique francophone. Et le Seigneur a continué de bénir. Mais juste pour vous dire que le Seigneur est vivant, que le Seigneur est tout-puissant et qu'il n'arrive jamais en retard, qu'il entend même nos soupirs. Alléluia, alléluia, Seigneur. Le Seigneur est venu vous encourager ce soir. Et il y a 2 ans, je crois, nous étions à Gatineau, 2-3 ans, chez Charles Boucher, justement, quand il était encore là-bas. Et là aussi, le Seigneur a certainement entendu les soupirs d'une dame qui était aussi dans un état terrible. Nous faisions la réunion dans l'église du pasteur Charles Boucher. Et à un moment donné, le Seigneur me dit, je suis en train de toucher quelqu'un qui a une grave décalcification des os. Alors, je le dis, le Seigneur est maintenant, à l'instant même, en train de toucher quelqu'un qui a une grave décalcification des os. Mais c'était plus grave que ça. C'était le cancer des os qu'elle avait, la dame. Ça n'a pas empêché le Seigneur de la toucher. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'était même pas à la réunion. Mais son fils était là. Et puis à la fin de la réunion, le fils vient me dire, ça c'est ma mère, d'après la description que j'avais donnée. Ça c'est ma mère. Alors j'ai dit gloire à Dieu. Le Seigneur l'a certainement touché. En effet, il rentre à la maison, sa mère qui ne pouvait plus bouger, cancer des os, 74 ans. Elle attendait sa fin aussi, elle ne pouvait plus bouger. Le fils, qu'est-ce qu'il voit? Sa mère debout. Sa mère debout. Et le lendemain, elle faisait son ménage. 3 jours après, elle faisait ses courses. Et 3 semaines après, son déménagement toute seule avec ses boîtes. À 74 ans, s'il vous plaît. Alléluia! Le Seigneur est vivant! Le Seigneur est vivant! Tout-puissant! Oh, que ces paroles puissent vous encourager à ouvrir votre cœur, à écouter la parole de Dieu, parce que quand il parle, il a quelque chose à te dire. Ne parle pas en vain. Soyons à l'écoute de ce qu'il veut nous dire. Et là, juste dimanche, pas ce dimanche-là, l'autre dimanche, nous étions à Saint-Jérôme, ici, dans les Laurentides, Saint-Jérôme, Et le Seigneur a donné cette parole de connaissance que il touchait quelqu'un qui avait des problèmes d'intestin. Et il y avait l'épouse d'un ancien de l'église qui souffrait terriblement. Et elle était surtout dans une grande angoisse. Voyez, là, elle criait au Seigneur, une femme quand même de foi, une femme vraiment qui marche avec le Seigneur. Mais elle avait un problème des intestins. Elle avait terriblement peur d'avoir le cancer. Et ça faisait 5 jours qu'elle était bloquée. Et des douleurs terribles. Ça devenait insoutenable. Elle pleurait tellement elle souffrait. Et là, au moment où cette parole a été donnée, cette femme a été touchée par le Seigneur. Je crois que c'était à la réunion des dames aussi. Et le Seigneur a touché cette femme. Elle a été instantanément délivrée de la douleur. Elle en pleurait. Elle est venue rendre témoignage 2 jours après parce qu'elle avait tellement peur de s'en aller avec le cancer. Il y avait plusieurs personnes dans sa famille qui étaient mortes de cette maladie-là. Alléluia, Seigneur. Je veux te louer, te bénir, élever ton nom. Et cette femme a été également touchée à la hanche. Elle avait certainement de l'arthrose dans la hanche droite, et elle a aussi été délivrée par une autre parole aussi. Le Seigneur est bon. Il n'oublie personne. Il entend chacune de nos prières, il entend chacun de nos cris et chacun de nos soupirs. Et nous voulons lui rendre gloire. Et maintenant qu'il va nous enseigner par sa parole, nous voulons être à son écoute et lui dire, Maître, parle. Tes serviteurs et tes servantes écoutent. Nous voulons t'obéir. Nous voulons marcher avec toi. Purifie nos vies. Et le Seigneur me montre qu'ici, il s'adresse particulièrement à une personne qu'il appelle à purifier sa vie. Laisse-moi purifier ta vie. Ne continue pas ainsi dans ta vie, sur le chemin que tu as pris. Parce que ce chemin-là mène à la perdition. Je te demande de t'humilier, de demander pardon et de revenir à moi. Et je vais purifier ta vie. Je vais sanctifier ta vie. Seigneur, donne à cette personne le courage d'obéir quand tu appelles. Parce que chaque fois que nous t'obéissons, nous faisons un pas en avant, Seigneur. Puissions-nous obéir plus rapidement quand le Seigneur nous parle. Et nous avancerons beaucoup plus vite et nous irons beaucoup plus loin et nous nous rapprocherons beaucoup plus du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur veut, que nous nous rapprochions de lui pour lui ressembler toujours, toujours, toujours davantage. Merci Seigneur, rends-nous semblables à toi. Rends-nous semblables à toi, parce que bientôt tu vas revenir sur les nuées du ciel et nous voulons être prêts quand tu viendras. Seigneur, purifie, Seigneur, sanctifie-nous. Amen.
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ta grande compassion divine. Seigneur, nous ne pouvons que nous incliner devant toi et te dire merci. Et te donner toute la gloire, car toi seul peux faire de telles merveilles. Dans ta grâce infinie, tu veux nous visiter comme tu as visité ces personnes. Puissions-nous ce soir encore être bien disposés à écouter ta voix, à nous attendre à toi, et surtout à obéir lorsque tu nous parles. Car c'est lorsque nous obéissons que toi tu agis. Merci Seigneur pour ta présence et pour ta parole maintenant que nous allons méditer. Aide-nous à la comprendre et surtout à la mettre en pratique. Merci Seigneur de nous aider maintenant et que toute cette soirée te glorifie. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur est vivant, c'est vrai. n'est point limité. Et là où il y a une souffrance, là où il y a un cri sincère qui monte vers lui, le Seigneur est là. Il n'est point sourd. Parfois, nous avons l'impression qu'il est sourd, mais c'est nous qui sommes sourds. C'est nous qui faisons la sourde oreille. Quand il nous parle et que ça nous dérange un petit peu, nous faisons la sourde oreille. Et alors, bien sûr, ça ne peut pas marcher. C'est lui le maître et nous les serviteurs. Mais à entendre certains chrétiens, on a l'impression qu'ils sont les maîtres et c'est le Seigneur qui est leur serviteur et qui doit faire leurs petits caprices. Mais ce n'est pas comme cela, n'est-ce pas? Il est lui le maître et nous, nous sommes ses serviteurs. Si nous sommes dans cette disposition d'esprit, alors, quelque chose est possible. Le Seigneur peut et veut se manifester au milieu de nous. Alléluia. J'aimerais vous donner juste quelques paroles d'exhortation pour nous aider à toujours mieux glorifier le Seigneur dans sa vie. Comment glorifier le Seigneur dans sa vie, comment le glorifier davantage. C'est là le titre que je donne à mon message. Comment le glorifier davantage? Cela doit être la prière de chacun. Car si nous sommes ici-bas, c'est pour que le nom de Jésus soit glorifié dans notre vie. Que le nom du Seigneur ne soit point déshonoré par notre vie, mais au contraire, honoré par notre vie. Et dans les Actes des apôtres, le Seigneur appelle ses enfants de 5 noms. Nous allons méditer quelques instants sur ces 5 noms et bien comprendre ce qu'ils signifient. Parce que si nous sommes au Seigneur, si nous sommes vraiment convertis, nés de nouveau, alors ces 5 noms, nous les portons. Et si nous les portons, nous devons vivre en conséquence. Parce que nous pouvons porter ces noms sans vivre en conséquence. Et si nous ne vivons pas en conséquence du nom que nous portons, nous déshonorons le Seigneur et nous ne le glorifions pas dans notre vie. Comment glorifier le Seigneur davantage dans sa vie? Le premier nom, c'est dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous devez le savoir par cœur. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ses apôtres? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Soulignez le mot témoin. À Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu es au Seigneur, si tu es converti au Seigneur, alors le premier nom que tu portes, que Dieu te donne, et il te dit: tu es mon témoin. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes des témoins. Alors, nous pouvons être un bon témoin et un mauvais témoin. Personne ne peut dire: moi, je ne suis pas témoin. Non, non. Bon. Si tu n'es pas témoin, alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que nous sommes tous soit un bon témoin, soit un mauvais témoin, un bon qui glorifie le Seigneur et un mauvais qui le déshonore. Et vous savez, le mot témoin ici, dans le texte grec, le mot grec veut dire martyr. C'est bien cela, martyr. Et qu'est-ce qu'un martyr? C'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour quelque chose qu'il a vécu. Un témoin, quand on demande un témoin au tribunal, on ne demande pas quelqu'un qui a entendu une histoire et qui vient raconter une histoire. Quand on appelle un témoin, c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose et qui vient raconter ce qu'il a vécu. Amen. Pas seulement une petite histoire qu'il a entendue. Oh, vous savez, j'ai entendu. Le juge va lui dire, tu rentres à la maison. Tu n'es pas un vrai témoin. Un vrai témoin, c'est celui qui a vécu quelque chose. Et qui vient le dire aux autres. C'est donc quelqu'un qui a expérimenté quelque chose de profond, de réel. Ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, la conversion. La conversion, vous savez ce que c'est ? Se convertir, c'est changer de direction. Autrefois, nous étions sur le chemin large qui mène à la perdition et nous changeons complètement de direction et nous prenons la direction opposée pour prendre le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Il y a là donc un changement radical, témoin de quoi ? Témoin de ce qu'un jour nous avons compris ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Et quand on a vraiment compris ce que Christ a fait sur la croix pour nous, qu'il est mort pour nos péchés, alors, à ce moment-là, nous ne pouvons pas rester les mêmes personnes. Quand nous avons vécu quelque chose, nous devenons des témoins parce que nous avons envie de le dire aux autres. Mais si quelqu'un n'a pas vraiment expérimenté quelque chose de réel, de profond dans sa vie, il n'a rien à dire aux autres. Voilà pourquoi certains qui se disent chrétiens n'ont pas envie de parler aux autres du Seigneur parce qu'ils n'ont rien à dire. Et s'ils n'ont rien à dire, c'est parce qu'ils n'ont pas vécu quelque chose de profond, de radical. La vie chrétienne n'est pas une religion, n'est pas une nouvelle religion, c'est une nouvelle vie. Amen. As-tu expérimenté cette nouvelle vie? Si tu l'as expérimenté, tu n'auras qu'une envie. C'est d'être un témoin, de le dire aux autres. Si quelqu'un a été guéri du cancer, par exemple, et qu'il y a un médicament qui guérit le cancer, qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Est-ce qu'il va se taire? Il va dire, mais partout, je connais un médicament qui m'a guéri du cancer et qui peut vous guérir aussi. Si cette personne se tait, vous croyez que c'est bien qu'elle se taise? Quand d'autres meurent de sa même maladie, alors qu'elle connaît le médicament, le remède, ce serait coupable. Vous serez mes témoins. Cela veut dire qu'un jour on a compris que Jésus est mort pour nos péchés, et que s'il est mort pour nos péchés, désormais, nous abandonnons, nous confessons nos péchés et nous les abandonnons. Quand on vient au Seigneur, c'est ça. Si c'est Christ, si ce sont nos péchés qui ont fait souffrir le Seigneur, alors je comprends une chose. Mes péchés l'ont fait souffrir à ce point-là, donc je confesse mes péchés et je les abandonne. Pour vivre une nouvelle vie. Et pour dire aux autres ce qui s'est passé en moi. Un témoin, c'est cela. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose et qui a un brûlant désir de dire aux autres ce qu'il a vécu lui-même. Alléluia! Quand vous lisez dans les Actes, on va prendre tous les passages, Mais à combien d'endroits il est dit, quand les gens s'opposaient aux apôtres et autres, nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. Personne ne pouvait leur fermer la bouche. Au début du siècle, quand il y a eu ce grand réveil parmi les Moraves, avec le comte Zizendorf, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Église, ce comte Zizendorf, à un moment donné, il était dans un musée, il attendait un endroit, il avait un rendez-vous, il était là dans l'attente, et en attendant, il avait été dans un musée. Et il a fait le tour dans ce musée, et à un moment donné, il est tombé sur une scène de la crucifixion. Et il s'est attardé devant cette scène de la crucifixion, où Jésus était sur la croix, en train de mourir pour nos péchés. Et dessous, il y avait une inscription. « Voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Quand il a lu cela, il a été profondément impressionné. C'était un chrétien, mais ce n'était pas un témoin. Il a réfléchi. Voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi ? Là, il est tombé à genoux. Et il a livré toute sa vie au Seigneur. Et cet homme a été à l'origine d'un mouvement de réveil missionnaire qui a envoyé des milliers de missionnaires dans le monde entier. Et les Moraves, quand on les appelait comme cela, c'était des hommes, des femmes qui sont partis dans le monde entier. Personne ne pouvait les arrêter. Ils prenaient le bateau et sur le bateau, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils étaient prêts à travailler, à faire n'importe quoi. Les tâches les plus humiliantes, ils étaient prêts à les faire pour pouvoir aller là où ils voulaient aller pour être les témoins de Jésus-Christ. Il y a eu un feu, il y avait une flamme. Vous serez mes témoins. Quand on a compris ce que Christ a fait pour nous à la croix et combien il a souffert pour nos péchés, tes péchés, mes péchés, on ne peut plus rester les mêmes. Amen. Nous ne pouvons plus rester les mêmes. Nous confessons et nous abandonnons notre péché. C'est la première des choses. Et ensuite, nous lui livrons notre vie. Non pas à moitié, non pas à 55%, à 99%, mais à 100%. Peux-tu dire devant Dieu ce soir, toi qui te dis chrétien, peux-tu dire que tu as livré ta vie au Seigneur à 100%? Peux-tu le dire? Alors tu es un témoin. Alors, tu as une envie, c'est de faire connaître aux autres ce sauveur merveilleux qui est venu te sauver, te libérer de tes chaînes et de l'enfer éternel. Tu le sais toi-même. Il n'y a pas besoin de faire de discours. Mais si tu retiens 1%, alors c'est comme si tu disais, Seigneur, tu es mort, mais moi, tu as pardonné mes péchés, mais moi je veux encore vivre pour moi-même. Je veux encore faire ma volonté. Jésus est mort pour nous, afin que désormais nous vivions pour lui. Avons-nous compris ces vérités de base, essentielles? Sinon, nous déshonorons le Seigneur. Nous sommes des témoins muets. Des témoins qui ne parlent plus ou qui gardent cette nouvelle pour eux. Le nom qui a été donné, c'est dans Actes 6, 3, Il y a une deuxième mention cette fois, acte 6, 3. C'est lors de l'institution des diacres, au verset déjà 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole, que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles ? Frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le Seigneur nous appelle témoins pour notre changement radical de vie. Et il nous appelle frères maintenant pour la communion fraternelle. Parce qu'une fois que nous appartenons au Seigneur, il y a un amour dans notre cœur qui commence à se manifester. Et cet amour fraternel ne vit pas pour recevoir, mais vit toujours pour donner et se donner. Amen. Et c'est là une vérité importante. Si tu veux honorer le Seigneur, il t'appelle frère. Et en tant que frère, de la même famille, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Autrement dit, en tant que membre de la famille, nous ne pensons plus à nous-mêmes, mais nous pensons à l'autre, à mon frère, à ma sœur qui est autour de moi. Il y a donc la pensée d'un renoncement. Maintenant que je suis frère, que je suis sœur, j'appartiens à la famille du Seigneur, je cesse de vivre pour moi-même. Je sors de mon égoïsme. Et je me donne, je renonce à moi-même pour servir mes frères et mes sœurs. Amen. Voilà une deuxième vérité. Mais combien de chrétiens, ils se disent chrétiens, mais ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne vivent que pour eux-mêmes. Il n'y a que leurs intérêts qui entrent en jeu. Peu importe l'autre qui est là, à côté de moi, et qui pleure peut-être. Peu importe. Non. Le Seigneur nous appelle frères pour notre amour fraternel. Ça veut dire que une fois que nous sommes au Seigneur, nous devons maintenant nous oublier nous-mêmes pour penser à mon frère et à ma sœur, pour le servir. Amen. Il y a des chrétiens qui font exactement le contraire. C'est les autres qui doivent le servir, les servir. Et ils rouspètent quand les autres ne le servent pas. Ils sont étonnés, qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne me sert ici. C'est quoi ça, cette histoire? Je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas, personne ne me sert ici. Ils n'ont rien compris. Ah bon, es-tu sûr qu'ils n'ont rien compris? C'est peut-être toi qui n'as rien compris. Si tu te dis chrétien, né de nouveau, si on t'appelle frère, c'est pour ton amour fraternel. Cela veut dire que tu dois maintenant commencer à t'oublier toi-même. Tu ne dois pas vivre comme dans le monde. Quand on était dans le monde, on utilisait l'affection des autres pour nous-mêmes, n'est-ce pas vrai? Il fallait que tout le monde tourne autour de nous. Et partout où nous allions, c'était toujours nos intérêts. Jamais on ne pensait aux autres, n'est-ce pas vrai? Jamais! C'est toujours les autres qui devaient penser à nous. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais maintenant que nous sommes au Seigneur, cet esprit est banni. Nous avons l'esprit de Dieu, l'esprit du ciel, l'esprit de Jésus-Christ. Et dans le ciel. Pourquoi le ciel est le ciel? Parce que dans le ciel, nul ne vit pour lui-même. Le ciel est le ciel, parce que chacun s'oublie soi-même et pense à l'autre. Vous verrez quand nous serons au ciel, c'est fini, vous ne pensez plus à vous-même. Vous pensez qu'aux autres. Et en rendant les autres heureux, vous-même, vous expérimenterez cette joie indicible du ciel et du Seigneur. Alléluia! Il nous appelle frères. pour notre amour fraternel. As-tu cet amour fraternel? Ou alors es-tu comme une sangsue spirituelle? Tu es là toujours pour sucer, exiger des autres. On est là comme des mendiants. Allez, un petit peu d'amour. Allez, un petit peu, un petit geste. Voyez-vous, tout tourne autour de nous-mêmes, comme dans le monde. Maintenant, nous sommes au Seigneur. Nous avons changé. Nous sommes dans la famille du Seigneur. Et là, on nous appelle frères. Cela veut dire que maintenant, je ne vis plus pour moi-même. Je n'attends pas que les autres me servent, mais je commence à servir les autres. Ça, c'est l'esprit du ciel. Ça, c'est le bonheur parfait. Alléluia. Frère, si tu es vraiment au Seigneur, tu es un frère, une sœur. Cela veut dire que maintenant, tu dois penser aux autres. Tu dois renoncer à toi-même et penser aux autres. Cesser de vivre pour soi. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est le plus grand bonheur de s'oublier soi-même. Oublie-toi toi-même et Dieu ne t'oubliera jamais. Mais le malheur, c'est qu'on vit toujours pour soi. On se dit chrétien ou chrétienne. Et on tourne autour de nous-mêmes. Et on exige même que les autres tournent autour de nous-mêmes. Avez-vous remarqué qu'une personne égoïste, qui ne vit que pour elle-même, vous n'arrivez jamais à la satisfaire? Avez-vous remarqué cela? Les personnes qui ne vivent que pour elles-mêmes sont toujours insatisfaites. Plus vous donnez, plus elles en veulent. Il n'y en a jamais assez. Encore, encore, encore. Certains chrétiens n'ont que ça dans la bouche. Encore, encore. Frère, tu appartiens à une famille. Si Christ a vraiment changé ta vie, si le Saint-Esprit habite en toi, alors tu peux t'oublier toi-même et pense aux autres. Commence à servir. Et si tout le monde le faisait, ce serait déjà le ciel sur la terre. Mais pour leur amour fraternel, manifestes-tu cet amour fraternel? Es-tu ouvert aux autres? Ah, mais vous ne comprenez pas, j'ai mes problèmes, j'ai mes soucis, mais vous ne comprenez pas, on dirait que vous planez, vous. Non, c'est toi qui planes. Tout le monde a ses problèmes. Et le seul moyen d'en être vraiment délivré, c'est de penser aux problèmes de l'autre. Alléluia. Troisième mot, troisième nom que Dieu donne à ses enfants pour l'honorer davantage. C'est le nom de disciple. Disciple. Acte 9, verset 1. Il y a d'autres endroits aussi, mais juste. Cependant, Saul, donc Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Soulignez bien ce mot, disciples là. Contre les disciples. Il n'est pas dit contre les frères là. Il n'est pas dit contre les témoins, mais contre les disciples. Disciples pourquoi? Nous avons eu témoins pour leur vie changée. Frères pour leur amour fraternel. Et maintenant, disciples pour leur consécration. Pour leur vie consacrée. Et le contexte ici, vous le remarquez, est le meurtre contre les disciples du Seigneur. Contre les disciples du Seigneur. Autrement dit, le mot « disciple » maintenant est un nom que Dieu vous a donné. Vous êtes aussi disciple du Seigneur. Et cela veut dire qu'il t'appelle disciple pour ta consécration. Un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à suivre son maître et qui se livre à son maître entièrement pour faire sa volonté et sa volonté seule. et qui est prêt à souffrir pour son maître. Voilà ce que fait un disciple. Voilà comment nous pouvons honorer le Seigneur et le glorifier davantage en nous consacrant à lui et en acceptant de souffrir à cause de son nom, par amour pour lui. Amen. Vous êtes un disciple. Soit un bon disciple, soit un mauvais disciple. Mais vous êtes un disciple. Ce nom vous a été donné. Et un vrai disciple, c'est quelqu'un qui s'est consacré à son maître et qui est prêt à le suivre coûte que coûte, jusqu'au bout. C'est ça un disciple. Et un disciple n'a qu'une idée en tête, c'est de ressembler à son maître. Et ensuite, de communiquer le message qu'il reçoit de son maître, de communiquer aux autres, à n'importe quel prix. Dites-moi si les premiers chrétiens n'avaient pas cette vision-là et cet amour pour leur maître jusqu'à donner leur vie, l'évangile ne serait jamais parvenu jusqu'à nous, mes amis. L'évangile ne serait jamais parvenu jusqu'à nous. Merci Seigneur pour ces disciples, ces hommes, ces femmes qui ont pris leur vie chrétienne au sérieux. Témoins, frères, disciples. Et dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Mais là, beaucoup de chrétiens modernes n'aiment plus la discipline. On fait un peu comme on veut. Allez donc. Et dès qu'il y a un effort, une discipline, un renoncement, quelque chose, non, oh là là, surtout pas. Il ne faut pas sacrifier. C'est les autres qui doivent se sacrifier pour vous. Mais vous, jamais. On sait toujours ce que les autres doivent faire. Mais nous, on ne fait jamais rien. On sait toujours bien dire aux autres, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais soi-même, non. On ne voit jamais ce qu'il faut faire pour soi. Mais on sait toujours ce que les autres doivent faire. Un disciple, c'est quelqu'un qui va le suivre jusqu'à la mort. Amen. Ça, c'est le beau nom que Dieu donne à chacun d'entre nous. Et c'est le plus grand honneur que Dieu puisse nous faire. Amen. C'est un honneur, mes amis, de souffrir pour le Seigneur, par amour pour lui. Il nous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, a dit l'apôtre Paul, mais encore de souffrir. Déjà des disciples de gourous, des disciples de telles stars. Vous avez vu jusqu'où ils vont, ces gens-là? Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Des disciples de telles stars, de je ne sais quoi, vous avez vu? Ils font exactement la même chose, la même mèche. Tout. Ils sont prêts à être ridicules. Ils veulent ressembler à leur idole. Et ils n'ont pas peur du ridicule. Ils le font pour une couronne corruptible, pour les choses de ce monde qui ne durent point. Et nous, ne le ferions-nous pas pour un maître si merveilleux? Il a tout donné pour nous. Comment ne pouvons-nous pas tout donner pour lui? Si nous ne le faisons pas, il y a quelque chose que nous n'avons pas encore saisi. Dans le message de l'Évangile, quatrième expression, Dieu nous appelle aussi des saints. Dans Actes 9, 13, juste un peu plus bas, avec Ananias, vous savez, au verset 10 déjà, « Or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas. » un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, J'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes... Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? À tes saints, dans Jérusalem. Et il a ici les pouvoirs de la part des sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent mon nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà. Tout ce qu'il a fait à tes saints. Le mot saint maintenant est un mot extrêmement important. Le mot saint dans la parole de Dieu veut dire deux choses. Séparé du péché et consacré à Dieu. Dieu t'appelle saint. Cela veut dire que normalement, tu dois être séparé du péché et consacré entièrement à ton Dieu. Est-ce que nous l'honorons en portant ce nom de saint? Nous sommes tous des saints aux yeux de Dieu. Cela veut dire que nous sommes tous séparés du péché pour appartenir uniquement à notre Seigneur et à notre Maître. Alléluia. Es-tu séparé de tout péché connu dans ta vie? Je ne parle pas des péchés inconnus. Je parle des péchés connus que tu sais que tu dois abandonner et qui déshonorent Dieu dans ta vie. Dieu t'appelle saint. Ça veut dire que tu dois te séparer de tout ce qui le déshonore et de tout ce qui détruit ton corps. Le péché, c'est cela. Le péché détruit. Tout ce qui détruit ton corps est un péché. Dieu t'appelle saint. Séparé du péché et consacré à Dieu. Es-tu? Veux-tu l'être? C'est comme cela qu'on glorifie le Seigneur de tout son cœur. Sinon, si nous marchons avec un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur, il n'y a rien de tel pour le déshonorer. Nous sommes des chrétiens boiteux qui déshonorent le Maître. Porte ce nom-là, mon ami, à tes saints. Ça voulait dire ici à ceux qui marchaient dans la sainteté, dans la lumière, dans la pureté. Aujourd'hui, nous n'aimons pas entendre ces choses. Dans ce monde impur, souillé, tu dois veiller à tout ce qui souille tes yeux, tes oreilles, ta bouche, tes lèvres. Tu dois veiller à tout cela. Dieu t'appelle saint. Soyez saints, car je suis saint, nous dit la parole de Dieu. Pourquoi nous devons être saints? Parce que Dieu est saint. Et bien souvent, nous appuyons trop souvent sur Dieu est amour, Dieu nous aime. C'est vrai. Mais il y a une autre vérité encore plus importante. C'est la sainteté de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est un amour saint. Nous ne devons pas l'oublier. Si nous mettrons l'accent uniquement sur l'amour de Dieu, alors, comme Dieu est amour, alors il nous pardonnera. Il peut même tolérer le péché. Il est amour. Voyez-vous comme cette conception-là peut complètement nous fausser. Oh, il m'aime. S'il m'aime, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y en a qui font pire que moi. Alors, voyez, on entre dans un cercle vicieux. Et le péché, on joue avec. Le péché, c'est comme un serpent, mon ami. Si tu ne tues pas le serpent te tuera. Et trop de chrétiens ont joué avec le péché. Trop de chrétiens ont joué avec cela. On ne joue pas avec ces choses. Et pour cela, il faut que nous ayons la révélation que nous aimons et que nous servons un Dieu saint. C'est un Dieu d'amour, c'est vrai, mes amis. Mais tous ceux qui vivent auprès du trône de Dieu, quand vous lisez Ésaïe ou l'Apocalypse, quand on vit près de Dieu, ce n'est plus l'amour de Dieu qu'on met en évidence, c'est la sainteté de Dieu. Avez-vous remarqué cela? Ésaïe, et puis dans l'Apocalypse, chapitre 5, quand la multitude était là, qu'est-ce qu'il crie? Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Non pas amour, 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 ou puissance, puissance, puissance. Nous, il n'y a que ça qui nous remplit la tête. Nous, il n'y a que ça qui nous intéresse. Et malgré tout cela, en chantant tout cela jour et nuit, nous sommes toujours les mêmes. Nous ne changeons pas, parce que nous n'avons pas la bonne vision des choses. Et au ciel, tous ceux qui vivent près de Dieu, c'est la sainteté qu'ils chantent. Jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le Seigneur Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Portons ce nom-là, tu portes ce nom-là, si tu es enfant du Seigneur. Est-ce que tu le portes dignement? Tu veux glorifier le Seigneur dans ta vie? Ben voilà ce qu'il faut faire. Il faut marcher dans la sainteté, séparer de tout ce qui déshonore Dieu dans ta vie. Combien de fois, quand on entend certains chrétiens, ils disent « Ah oui, d'accord, ah oui, alors, pasteur, frère, il faut prier pour moi, pour que Dieu me délivre de ceci et de cela. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. À Dieu le pouvoir, mais à toi le vouloir. Si toi, tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera jamais la sienne. Parce que tu n'es pas une marionnette, tu n'es pas un robot, tu as ta part à faire. Et je constate que beaucoup de chrétiens attendent tout de Dieu. Mais alors, il ne fait pas grand-chose, le Seigneur. Tu as demandé 1000 fois quelque chose pour qu'il te délivre, mais il n'a pas l'air de faire grand-chose. Il est en vacances, le Seigneur. Où il est? C'est si important, il ne fait rien. Pour te délivrer de cette passion, il est où? S'il n'y a rien qui se passe, c'est que tu as mal compris quelque chose. Ce n'est pas lui qui est en vacances, c'est toi qui es en vacances. Ce n'est pas lui qui est sourd, c'est toi qui es sourd. Le Seigneur ne forcera jamais rien sur toi. C'est à toi le vouloir et à Dieu le pouvoir. Si tu ne dis pas « je veux maintenant être délivré », et maintenant, au nom de Jésus, j'abandonne cela. Si tu ne prends pas cette décision, la force ne te sera pas communiquée. D'abord ta part, et ensuite Dieu fait la sienne. Et beaucoup de chrétiens font exactement l'inverse. Ils attendent que Dieu fasse quelque chose. J'attends. Qu'est-ce que tu fais? Ben j'attends. Qu'est-ce que tu attends? Ben j'attends qu'il me délivre. Depuis combien de temps? Ah ben ça fait 15 ans déjà. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en attendant, ils vivent une vie qui déshonore le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Et on vit dans des salles d'attente. À la croix, la délivrance a été faite complètement. Amen, déjà. Le Seigneur nous a délivrés de toute passion, de toute chaîne, des puissances du malin. L'œuvre a été accomplie à la croix. Maintenant, c'est par un acte de foi et une décision de sa volonté que l'on abandonne le péché. Et que Dieu, ensuite, nous en donne la force. N'appelle pas ta passion une maladie ou une faiblesse. Appelle ta passion un péché. Et un péché, on fait quoi avec le péché? On le confesse et on l'abandonne. Et quand tu fais cela, tu verras le ciel s'ouvrir. Et tu verras que le Seigneur n'est pas en vacances. Tu verras qu'il est bien là. Tu l'attendais, mais c'est lui qui t'attendait. C'est lui qui attendait que tu fasses cela. Il t'attendait. Mais si tu ne veux pas abandonner, le Seigneur ne te forcera jamais. Amen. ça, il faut que ce soit bien clair. Si tu ne veux pas, il ne te forcera jamais. Il respecte ta volonté. Je termine. 11:26, acte 11:26. C'est là, à Antioche, que pour la première fois, les disciples furent appelés, quoi ? Chrétiens. Chrétiens. Saints pour leur sanctification et chrétiens pour leur amour et obéissance au Seigneur. On les appelait chrétiens parce qu'ils le prouvaient en obéissant à sa parole. Amen. Parce que Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Arrêtons de dire j'aime le Seigneur si nous ne prouvons pas que nous l'aimons par notre obéissance à sa parole. C'est de l'hypocrisie de dire j'aime le Seigneur et qu'on n'obéit pas à sa parole. C'est de l'hypocrisie. C'est déshonorer le Seigneur. Trop de gens disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils n'obéissent pas à sa parole. Et un vrai chrétien, c'est celui qui aime le Seigneur et qui obéit à sa parole. C'est comme cela qu'on l'honore vraiment. Veux-tu glorifier davantage le Seigneur? Alors tu le sais, tu portes ces 5 noms, porte-les dignement, vis en conséquence. Vie en conséquence. Corrige ce qui doit être corrigé. Reviens au pied de la croix. Contemple celui qui a tant souffert pour toi. Voici ce que j'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? Si nous réfléchissons à ces choses, nous ne pouvons pas rester les mêmes. Et nos vies glorifieront toujours plus le Seigneur. Amen. Prions le Seigneur quelques instants. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es un maître merveilleux. À qui d'autre qu'irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nul n'a parlé comme toi. Nul n'a aimé comme toi. Nul ne s'est sacrifié comme toi, comme un agneau muet devant ceux qui le tombent. Tu n'as point ouvert la bouche. À cause de moi, à cause de mes péchés, de nos péchés, quel amour tu as eu pour moi, pour nous, Seigneur, afin de nous délivrer de notre péché et de nous donner une vie nouvelle, une vie entièrement nouvelle, pour être des témoins et annoncer tout ce que tu as fait dans notre vie. Nous voici, Seigneur, nous voulons t'honorer davantage dans notre vie. Pardonne, purifie, ôte de nos vies tout ce qui te déshonore, et que nous puissions prendre les décisions qui s'imposent ce soir, les décisions qui s'imposent pour abandonner ce qui te déplaît et pour marcher à ta suite. Merci Seigneur, nos vies sont à toi. Prends-les, purifie-les, transforme-les, façonne-les, et que ton image paraisse en chacun d'entre nous. Merci Seigneur, nous voici pour te servir, pour te glorifier, te refléter et t'honorer toujours plus. Amen. Restons dans le recueillement encore quelques instants. Restons dans la prière devant le Seigneur.
C'est la précision que le Seigneur donne ici ce soir. Toi qui m'as donné ton cœur, donne-moi aussi ton corps avec ses passions. Le Seigneur veut que plusieurs prennent la décision ce soir d'abandonner ce qui le déshonore. Et le Seigneur purifiera leur corps des méfaits du tabac. Parce que le tabac détruit. Et tout ce qui détruit ton corps est un péché devant Dieu. Fumer est un péché, d'accord? Parce que ça détruit ton organisme. C'est scientifiquement prouvé. Tout le monde le sait. Et le Seigneur est attristé de cela. Et il voudrait que ceux qui sont concernés ou celles qui sont concernées prennent la décision ce soir de devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Pas seulement dans leur tête, pas seulement dans leur corps, mais que le Seigneur soit Seigneur de leur corps aussi. Pas seulement de leur cœur, mais de leur corps aussi. Alléluia. Et j'appellerai ceux qui veulent vraiment prendre cette décision à se lever à leur place. Si vous le voulez, personne ne vous force, mais vous pouvez le faire. Ça vous aidera à prendre la décision. Parce que c'est une décision comme le jour de votre conversion. C'est la même chose. C'est la décision d'abandonner la cigarette. Alléluia. Ce soir, j'abandonne, je n'en fume plus une seule. D'accord? Je peux vous dire que moi aussi, j'ai fumé avant ma conversion. Mais j'ai pris la décision immédiatement parce que j'avais été enseignée. On m'avait dit, fumer, c'est péché depuis ma tendre enfance. Et le jour où je suis revenue au Seigneur parce que je l'avais abandonné, eh bien, le Seigneur m'a libérée d'une seconde à l'autre. Simplement parce que j'ai pris la décision, Seigneur, je ne veux plus te déshonorer. C'est péché, c'est sale. Ça me détruit. Eh bien, Seigneur, merci Seigneur d'aider ces personnes. Maintenant, à rester ferme dans la décision que tu leur demandes de prendre. Alléluia, Seigneur. À toi le vouloir, te dit le Seigneur, et à moi le pouvoir. Si tu le veux, je peux. Alléluia, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Et tu réponds toujours quand nous venons devant l'autel du sacrifice. Pour nous sacrifier, abandonner. Seigneur, je te remercie pour ces personnes qui se sont levées et je te remercie parce que tu les touches maintenant et tu les aides, tu leur donnes ton pouvoir, ta puissance. Et merci Seigneur, purifie aussi leur organisme, leurs poumons, tout ce qui a été détérioré par ce poison. Seigneur, et le Seigneur vous dit, maintenant, va et ne pêche plus. Alléluia! Merci, Seigneur. Alléluia! Merci, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Parce que ce soir, tu sanctifies des vies, tu purifies des vies et des corps. Alléluia! Alléluia! Loué sois-tu. Merci, Seigneur. Tu es tout puissant. Alléluia, Jésus. Tu m'as libéré, tu libères celui qui abandonne. Alléluia! Celui qui décide. Merci Jésus. Gloire, puissance à toi. Alléluia Seigneur. Jésus, Jésus. Parce que rien de souillé ni d'impur n'entrera jamais dans ce ciel de gloire. Alléluia, jamais. Dieu est saint. Dieu est trois fois saint. Oh, puissions-nous le réaliser dans tous les domaines de notre vie. Seigneur voudrait aussi purifier les yeux de quelqu'un. D'accord, tu regardes certaines choses que le Seigneur ne peut pas regarder avec toi. Et le Seigneur voudrait que tu mettes cette passion-là aussi de côté. Que tu décides ce soir d'abandonner cela afin de vivre une vie de sainteté. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur, ce soir tu es là pour purifier, pour sanctifier les vies. Alléluia, alléluia Seigneur. Alléluia. Pour que tu comprennes que c'est bien de toi qu'il s'agit. Tu en rêves même la nuit. Alléluia, Seigneur, merci Jésus. Tu es un Dieu de sainteté, de pureté. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur touche une femme qui a un problème d'utérus. Il guérit un utérus. Toi qui connais toutes choses. Qui sait quand quelque chose ne va plus, ne fonctionne plus bien. Merci Seigneur de toucher cette femme. Alléluia, loué, loué sois-tu Seigneur. Merci Jésus. Le Seigneur purifie aussi quelqu'un qui a une infection dans le sang et qui produit des sortes de plaques. Alléluia Seigneur, merci Jésus de ce que tu purifies ce sang-là aussi. Alléluia, loué sois-tu. Merci Jésus. Oh Jésus, Jésus, loué sois-tu Seigneur, tu es merveilleux. Nous sommes devant toi comme un livre ouvert. Tu vois tout ce qui va et tout ce qui ne va pas aussi, Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus. Loué sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Et le Seigneur a montré qu'il y avait quelqu'un qui avait une tendinite aussi, qui le fait souffrir. Qui se fait souffrir cette personne. Merci, Seigneur, d'enlever cette douleur. Donc, de façon à ce qu'il ne fasse plus, il ne soit plus enflammé. Merci, Seigneur. Louange et gloire à ton nom. À toi la gloire, la puissance, l'honneur. Alléluia, Jésus, nous t'aimons de tout notre cœur. De tout notre cœur. Et juste encore une parole pour quelqu'un qui a reçu, qui a été utilisé par le Seigneur dans son témoignage. Le Seigneur voudrait te dire, je place parfois des personnes devant toi, ça m'a été donné tout à l'heure, auxquelles j'attends que tu leur rendes témoignage. Je place des personnes devant toi auxquelles je veux que tu rendes témoignage. Je veux que tu sois plus obéissante. Il s'agit d'une femme plus obéissante. J'ai tant fait dans ta vie. Et tu te tais parfois simplement parce que tu as peur de leur déplaire. Reprends ton flambeau, te dit le Seigneur. Je voudrais que ta lumière luise devant ces personnes. Et rappelle-toi que la plus faible lumière peut faire la différence dans la nuit la plus sombre, te dit le Seigneur. La plus faible lueur peut être une lumière du Seigneur qui conduit cette personne vers le Seigneur. Donc ne te tais point, tu as l'impression de ne pas pouvoir parler, mais le Seigneur va mettre des paroles dans ta bouche, à toi de l'ouvrir, à toi de ne pas chercher à craindre ou à plaire à ces personnes. De ne pas avoir peur de ces personnes et davantage la crainte du Seigneur plutôt que celle des hommes. Alléluia, merci Seigneur. Louange et gloire à toi Seigneur. Tu parles de différentes manières, mais de toute façon c'est pour purifier nos vies et pour nous aider à avancer et à te glorifier toujours plus. Amen. Alléluia Seigneur.
Que Dieu vous bénisse.
Oh, merci Seigneur. On se lève ensemble, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on chante ce refrain. Car il est le seul Seigneur. Il est ressuscité. Comme il nous a été si bien prêché, il est ressuscité. Il est Seigneur. En terminant, on veut lui donner la gloire. On veut le louer pour tout ce qu'il est en train de faire en ce moment et les paroles qui ont été apportées, qui peut-être vous concernent, vous. Juste laissez le Saint-Esprit les appliquer dans votre vie, dans votre corps, dans votre cœur en ce moment. Alléluia, il est le seul Seigneur. Il nous a donné des noms glorieux que nous portons, le témoin, le disciple, frère. Nous sommes saints et nous sommes chrétiens et Jésus, lui, est Seigneur. Alléluia, et on veut le louer en terminant. Car il est le seul Seigneur. Tout genou fléchira, toute bouche confessera que Jésus est le Seigneur, car il est le seul Seigneur. Le seul Seigneur, il est ressuscité, c'est le Seigneur. Il est ressuscité, c'est le Seigneur. Oh, tout genou fléchira, tout genou fléchira, toute bouche confessera. De bouche confessera que Jésus est Seigneur, que Jésus est le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Père, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ta parole ce soir. Merci pour les noms que tu as mis sur nous. Merci Seigneur pour les noms que tu as mis sur nous. Nous voulons vivre de façon digne des noms que tu nous as acquis. Car ces noms, tu nous les as acquis au prix de ton sang. Ces noms ont coûté quelque chose. Ce ne sont pas des étiquettes gratuites, ce ne sont pas des étiquettes charnelles, des étiquettes mises par les hommes. Ce sont des noms précieux qui ont coûté la vie de Jésus sur la croix afin que nous puissions être des chrétiens, des saints, des frères, des disciples et des témoins. Seigneur, merci pour le prix payé pour nous. Nous entendons ce que l'Esprit dit à l'Église. Être purifié. Se repentir. De venir devant Dieu. De revenir à Lui de tout notre cœur. D'abandonner tout ce qui déplaît à Dieu. Afin de Lui plaire de plus en plus. Afin que le monde voit. Le monde a désespérément besoin de voir des hommes et des femmes qui sont des témoins vivants, des preuves vivantes que Jésus est bel et bien le Seigneur et le Sauveur, qu'il vit encore aujourd'hui, qu'il est présent, qu'il les aime. Alléluia. Merci pour ta parole ce soir, Seigneur. Nous te bénissons. Puisses-tu bénir maintenant notre frère et son épouse? Dans la suite de leur ministère au Québec, dans la suite de leur ministère, Seigneur, partout, tu vas les conduire dans la suite, Seigneur. Te remercions de leur venue parmi nous ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Gloire au Seigneur.